Bonsoir à tous. Réfugiés sur le bord du balcon alors que le plancher commence à brûler. Témoignage d'une rescapée de l'incendie de la nuit dernière à Paris. Il y a 10 morts, 33 blessés. L'incendiaire présumé, une femme de 40 ans, a déjà été hospitalisée sous contrainte à Sainte-Anne. Les rues de France en jaune et rouge, gilets jaunes et CGT ensemble après des semaines de méfiance. Nous étions à la manifestation parisienne. Au sommaire également ce soir, un premier vote à l'Assemblée de la loi anti-casseurs. 50 députés En Marche se sont abstenus. Le discours de Trump au Congrès pour tenter de rassembler l'Amérique. Mads Mikkelsen seul en Arctique, c'est en salle demain. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien justement, puisque vous parliez à l'instant des jaunes et rouges, nous aussi, nous y sommes. On va essayer de compter un petit peu les points en fait après cette journée de mobilisation lancée donc par la CGT. Est-ce que la grève avec les gilets jaunes et la grève, eh bien là, décidément, ou est-ce qu'ils sont toujours en train de se regarder en chien de faïence? On essaiera de voir tout ça ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. Des flammes qui sortent des fenêtres et noircissent la façade de l'immeuble, des pompiers à la verticale sur des échelles accrochées au balcon et des habitants affolés, les pieds au bord du vide qui crient « Sauvez-moi » au milieu des fumées. Les voisins et les rescapés décrivent une nuit infernale, rue Erlanger dans le 16e arrondissement de la capitale, et ils disent tous aussi le courage des pompiers qui ne pouvaient pas utiliser leur nacelle dans cet immeuble sur cour. Claire est encore sous le choc. Elle a été secourue au dernier étage du bâtiment.
Moi, j'étais au 8e et au 7e, ben, ça brûlait très très fort et du coup, ça chauffait sous nos pieds. Alors du coup, ils nous ont aspergé d'eau et puis une fois que c'était un peu maîtrisé, ils nous ont fait descendre. C'était comment ils nous ont fait descendre ? En rappel sur le côté droit de l'immeuble parce qu'il y avait trop de flammes au 7e étage. Donc on est passé sur un des côtés de l'immeuble en fait pour descendre environ 50 mètres en rappel au bout d'une corde. Je sais pas trop comment je vais en fait. J'ai pas l'impression d'être vivante encore. Bah en fait, je croyais être morte. J'étais sûre de mourir alors. Pour l'instant, je me sens pas encore vivante. Mon esprit, il est pas là. Il est encore dans les flammes, avec les gens qui crient, et qui pleurent. Et j'ai tout vu et tout entendu.
Claire dit aussi à Béatrice Duguay qu'elle a aidé ses voisins du 7e étage à se réfugier au 8e par le balcon. Mais le bilan est lourd malgré les quelques 250 soldats du feu mobilisés pendant 5 heures. 10 morts, 33 blessés dont 8 pompiers. Incendie d'origine criminelle pour le procureur de la République venu sur place ce matin. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir.
Une femme de 40 ans était en garde à vue suspendue ce soir pour raison médicale.
Oui, elle a été transférée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Son état n'est pas compatible avec une garde à vue. Arrêtée cette nuit en état d'ébriété alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture devant l'immeuble. Cette femme, âgée de 40 ans, a des antécédents psychiatriques. Selon nos informations, elle avait déjà été hospitalisée sous contrainte à l'hôpital Sainte-Anne. Hier soir, cette habitante du 2e étage de l'immeuble s'est disputée avec son voisin, un pompier, qui lui reprochait de faire trop de bruit. Le pompier et sa compagne avaient même appelé la police. Écoutez le récit de Thomas, habitant du 5e étage de l'immeuble, interrogé ce matin par notre reporter Rémi Brancato.
On a entendu, comme je disais, une violente dispute aux alentours de minuit et demi, de la vaisselle cassée, des insultes. Ensuite, le calme pendant 5 minutes. D'après ce que le couple nous a dit tout à l'heure, une fois qu'on était dans la rue, ils ont appelé la police. Ils sont sortis une vingtaine de minutes dehors le temps que la police intervienne. Ils sont re-rentrés en pensant que la personne avait été interpellée, c'était pas le cas. Ils ont croisé cette personne dans la cage d'escalier. Et d'après ce que la personne nous a dit, la femme qui aurait mis le feu les aurait menacés également. Elle a dit « tu es pompier » parce que le monsieur est pompier. « Tu es pompier, tu vas périr dans les flammes ». 5 minutes après, les alarmes, les cris, le feu.
Alors ce qu'on ignore à ce stade, c'est s'il y a eu un seul départ de feu devant la porte du pompier, donc selon le récit de ce témoin, à partir duquel le feu se serait propagé par la cage d'escalier, ou bien plusieurs. Des traces de produits inflammables ont été détectées. L'enquête pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort a été confiée à la police judiciaire.
Corinne Audouin, la France se réveille dans l'émotion, disait Emmanuel Macron ce matin sur Twitter, en rendant hommage au courage des pompiers qui ont sauvé une cinquantaine de vies. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et la maire de Paris étaient sur place également. Paris est en deuil, a écrit Anne Hidalgo. Les images filmées par les sapeurs-pompiers de Paris, elles sont sur le site de France Inter, évidemment.
Est-ce le début de la convergence des luttes, Sébastien ?
En tout cas, c'est la première fois qu'ils défilaient ensemble, syndicats et gilets jaunes mobilisés depuis 2 mois et demi. Cette fois, c'est à l'appel de la CGT, de Solidaire et de plusieurs organisations de jeunesse que cette journée d'action était organisée partout en France avec des grèves. L'antenne de France Inter a été touchée, la Tour Eiffel est fermée, des barrages comme devant l'aéroport de Nantes ou à l'université Bordeaux-Montaigne et des manifestations à Marseille, Lyon, Strasbourg, Caen, Toulouse ou encore Paris. Bonsoir Mathilde Dehimy.
Bonsoir Sébastien.
30 000 personnes d'après la CGT dans la capitale, 18 000 d'après la police, encore moins, 14 000 d'après le cabinet Occurrence, mandaté par plusieurs médias. Vous avez suivi en tout cas le cortège parisien entre l'Hôtel de Ville et la Concorde.
Un tracé inhabituel, mais tous les ingrédients d'une manifestation syndicale sont là. Ballons, camionnettes, banderoles, drapeaux aux couleurs de la CGT, de Sud, Solidaire, quelques FO. Longtemps, les gilets jaunes comme Luc leur ont tourné le dos.
Il y a eu un moment où effectivement on n'était pas trop d'accord pour accepter les aides extérieures. Force est de constater que si on ne l'a pas, on n'avance pas. Malgré tout, on lutte pour les mêmes choses, pour le bien-être des personnes. Donc on ne peut que se retrouver.
Convergence des slogans, Macron démission, libérer Christophe en tête de cortège. Mais la défiance reste parfois. Certains gilets jaunes disent se méfier des syndicats. Il n'y a pas de récupération, assure Philippe Martinez. Pas d'accord surtout avec les gilets jaunes, notamment sur les taxes, dit le patron de la CGT. Mais il faut discuter.
Il faut faire de la pédagogie, par exemple, que des cotisations sociales, ce ne sont pas des charges sociales. Ça sert à financer la sécurité sociale. Voilà, on leur explique ce que nos points de vue sur un certain nombre de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête d'être dispersés.
De la pédagogie qui devra se poursuivre au-delà de cette première manifestation commune, reconnaît Michel, gilets jaunes et drapeau CGT à la main.
Il faudra bien qu'on s'organise ensemble pour pouvoir pousser nos revendications communes. Faire pression sur l'économie, sur les patronats, qui est tranquille pour le moment. Et c'est dans les entreprises qu'on pourra le faire.
Certains gilets jaunes appellent désormais les syndicalistes à les rejoindre le samedi. Mais les syndicalistes avaient le sentiment de devoir jusqu'à présent choisir entre leur gilet et leur drapeau.
Libérer Christophe, c'est sans doute Christophe Détinger, le boxeur de gendarmes sur la passerelle Sangor à Paris. Merci Mathilde Dehimy. Quelques échauffourées à la fin de la manifestation parisienne, alors que les députés ont adopté en première lecture le projet de loi anti-casseur, 387 voix contre 92. Texte déjà approuvé en octobre au Sénat, à majorité de droite, mais qui crée quelques fissures dans la majorité, notamment sur son aile gauche et sur l'interdiction administrative de manifester que peuvent prendre les préfets. Résultat, Laurence Perron, pas de vote contre, mais 50 marcheurs se sont abstenus.
L'opposition de gauche l'a senti, c'est plus qu'une grogne. On touche là à quelque chose de sensible chez ces députés En Marche, heurtés par la loi dite anti-casseurs. Le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, tente donc le tout pour le tout.
Écoutez les voix qui vous critiquent, monsieur le ministre et mes chers collègues, écoutez-les. Elles viennent de gens qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Elles viennent notamment de l'avocat, monsieur Sureau, qui est l'homme qui a écrit et rédigé les premiers statuts de la République En Marche, et qui vous disent aujourd'hui que cette loi intimide non pas le délinquant, mais le citoyen. Et je ne citerai pas les nombreux députés En Marche, et je les félicite qui ont fait entendre plus que de l'émotion.
Au final, pas de vote contre chez les marcheurs, 50 abstentions, c'est inédit. Ils étaient 14 sur la loi Asile et Immigration. Sonia Crémy, députée La République En Marche de la Manche.
Vous savez ce que je pense des lois de circonstance. Je continue à penser que c'en était une. Le quinquennat de Hollande avec la déchéance de nationalité a été tué avec ça. Voilà. Là, la réalité du terrain, c'est qu'il y a 200 casseurs. Il faut pas non plus dire que les gens qui ne votent pas cette loi, c'est des gens qui n'aiment pas l'ordre, qui adorent les casseurs. Il faut arrêter en fait cette vision binaire du monde. Stop quoi.
En seconde lecture, Sonia Crémy, comme ses collègues abstentionnistes, ont prévenu, si l'article 2 qui confère au préfet plutôt qu'au juge judiciaire l'interdiction de manifester est maintenu, ils voteront contre la loi.
Et le projet de loi retourne au Sénat en deuxième lecture mi-mars. L'autre dossier qui fait beaucoup parler à l'Assemblée, c'est cette perquisition avortée hier chez Mediapart après la diffusion d'une conversation téléphonique où Alexandre Benalla se vante auprès de Vincent Crase d'avoir le soutien de l'Élysée. L'opposition s'interroge sur l'origine de cette perquisition dans une rédaction. Question posée par le député France Insoumise dans l'hémicycle Hugo Bernalicis. En réponse et réponse de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
On sait que la loi vous interdit de donner des instructions dans des affaires individuelles. Mais qui peut encore vous croire suite à la tentative de perquisition dont vient de faire l'objet le journal Mediapart ? Et c'est bien vous les responsables. En effet, rappelons que le parquet de Paris est dirigé par le procureur Rémy Heitz, personnellement choisi par Macron, la voix de son maître peut-être. Alors allez-vous cesser d'intimider les journalistes et les politiques ?
Mediapart a dans un premier temps S'il vous plaît.
Mediapart a dans un premier temps refusé cette remise. Depuis, les bandes sonores ont été remises à la justice, ce qui est une très bonne chose, je crois. Je suis attachée au principe de la liberté de la presse et à la protection du secret des sources. Je crois que ce sont des pierres angulaires pour notre démocratie. Paris n'est pas Caracas.
Les sociétés de journalistes de nombreux médias, dont Radio France, disent leurs préoccupations et leur solidarité avec Mediapart dans une lettre ouverte. La politique encore et cette affaire qui a été classée il y a 2 ans, les faits d'agression sexuelle et de harcèlement étaient à la fois susceptibles d'être qualifiés pénalement, mais prescrits d'après le parquet. L'affaire Denis Baupin est tout de même au tribunal depuis hier, mais ce n'est pas le procès de l'ancien élu écologiste. C'est lui qui attaque en diffamation les 8 femmes qui l'accusent. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Sébastien.
Ainsi que les médias qui ont relayé les premiers leurs accusations, c'est-à-dire Mediapart et France Inter.
Oui, mais c'était inévitable. Le procès en diffamation est devenu cet après-midi le procès de Denis Baupin, toujours absent, rappelons-le, après que les 2 journalistes de France Inter et Mediapart ont raconté les détails de leur enquête, les conditions dans lesquelles ils ont recueilli les témoignages, les précautions qu'ils ont prises, notamment en s'assurant que les femmes ne s'étaient pas concertées, en s'assurant aussi qu'il n'y avait pas de règlement de compte politique derrière tout ça. Sandrine Rousseau s'avance à la barre, jeune femme dynamique, pleine de vie, large sourire. Elle se souvient de son binôme vert sur les questions énergétiques. Un jour de réunion tendue au siège du Parti Socialiste, soudain, Denis Baupin la plaque contre un mur. Il essaye de l'embrasser, il lui touche les seins. C'était un tsunami pour moi, se souvient-elle, en perdant le sourire. Après, j'en ai parlé autour de moi beaucoup, mais plusieurs cadres du parti m'ont dit qu'ils n'étaient pas étonnés. Sandrine Rousseau ne portera pas plainte. Maintenant, elle sanglote à la barre parce que cette histoire lui a coûté son mariage. 8 ans plus tard, quand elle témoignera sur France Inter et Mediapart, ce sera une libération pour moi et pour toutes les femmes qui ont vécu cela, confie-t-elle au tribunal.
Jean-Philippe Degnaud, merci, en direct du Palais de Justice de Paris.
Les négociations ont duré plusieurs mois.
Alors que Paris cherche des solutions pour mieux taxer les géants du numérique en France et en Europe, le fisc a finalement trouvé un accord avec Apple en décembre. La firme à la pomme aurait payé près de 500 millions d'euros d'arriérés d'impôts pour solder un litige qui durait depuis 10 ans. Apple déclarait en France un faible chiffre d'affaires au regard de ses ventes en Europe. Chiffre d'affaires en grande partie encaissé en Irlande. Lors des comptes aussi pour une autre entreprise étrangères implantées dans l'Hexagone, General Electric, qui n'a pas tenu ses engagements en matière de création d'emplois au moment du rachat de la branche énergie d'Alstom et qui va payer, Fabien Cazot, 50 millions d'euros de pénalités.
25 emplois créés sur les 1000 promis, le chiffre semble dérisoire et pourtant General Electric assure avoir fait son maximum. Le groupe invoque des conditions de marché particulièrement difficiles depuis 3 ans. Faux, rétorquent les syndicats qui affirment que le marché du gaz et donc des turbines fabriquées à Belfort encore de beaux jours devant lui. Faute d'investissement suffisant sur le site, l'État a voulu acter aujourd'hui un échec industriel. Comme convenu avec General Electric, un fonds de réindustrialisation sera créé, abondé à hauteur de 50 millions d'euros par le groupe américain, une somme qui devra théoriquement aider à créer de l'activité à Belfort et dans la région. General Electric assure vouloir développer de nouvelles activités, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. De nouvelles promesses que l'État semble décider à contrôler de près. Bercy annonce que le comité de suivi qui s'est réuni aujourd'hui sera pérennisé.
Les premiers virements de la prime d'activité sont arrivés aujourd'hui. Une prime d'activité revalorisée de 90 euros pour ceux qui sont au SMIC. Et les plafonds de ressources élargis, 700 000 nouveaux bénéficiaires vont donc la toucher. Cette année, 3,5 millions de foyers au total. Depuis cette annonce d'Emmanuel Macron, 400 000 dossiers rien qu'en janvier. Alors qui sont ces nouveaux bénéficiaires qui se manifestent dans les caisses d'allocations familiales? Laurent Kramer est allé dans une CAF parisienne.
Du coup, je voulais voir avec vous, j'ai fait ma demande en ligne pour la prime d'activité, je voulais voir où est-ce que ça en était, si j'étais éligible ou pas.
Gaëlle, 22 ans, vient de reprendre ses études en contrat pro, elle gagne 930 euros par mois et fait partie de ces nouveaux bénéficiaires qui n'imaginaient pas toucher la prime d'activité.
Donc vous aurez sur votre compte 279,09 euros à compter du 5 février, madame.
Vous attendiez à cette somme ?
Non, c'est vrai que j'avais vu moins, ça m'avait dit dans les 160, je crois. C'est une bonne surprise, parce qu'avec le salaire que j'ai actuellement, je peux pas faire grand-chose à côté, c'est vrai que j'ai pas beaucoup beaucoup d'argent pour moi, donc c'est bien.
C'est pour faire la demande de prime d'activité, c'est ça ?
Autre exemple, Yasmine, qui vient de basculer à contre-cœur à mi-temps pour s'occuper de son enfant de 3 ans en difficulté. Jusqu'ici, au-dessus des plafonds, elle ne touche aujourd'hui aucune aide ni APL.
Je gagne 710 et mon mari gagne 1350. On a un loyer de 1278 €. On est fait chez Banque de France à deux. Donc s'ils peuvent nous aider, ça peut acheter du lait pour le petit et ça peut aider.
Après examen du dossier, Yasmine devrait toucher 250 € par mois. Déception en revanche pour Benoît qui travaille aujourd'hui au musée du Louvre.
C'est-à-dire que là je suis à 1300 net. J'ai même pas droit avec le salaire que j'ai, qui est un salaire très moyen. C'est un peu triste. Hein.
Benoît découvre que sa pension d'invalidité de 500 € par mois est depuis le 1er janvier intégrée dans le calcul de ses ressources. Travailleur handicapé, Benoît ne touchera donc pas de prime d'activité.
La première conséquence de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers candidats à une licence à la fac, le nombre de candidatures est en baisse de 10% pour la rentrée prochaine. Très forte baisse notamment des étudiants du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc.
Il est 19h15 sur France Inter, c'est une tradition une fois par an aux États-Unis.
Le président s'adresse au Congrès réuni au Capitole pour faire le bilan de l'année écoulée et évoquer l'avenir. L'avenir, c'est la présidentielle dans moins de 2 ans et sans doute une candidature à un second mandat pour Trump. Le bilan, c'est un shutdown jamais vu dans l'histoire du pays à cause du mur à la frontière mexicaine. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Le président américain devrait donc se montrer rassembleur ce soir.
Oui, c'est en tout cas ce que la Maison-Blanche laisse entendre en faisant fuiter quelques extraits de ce discours dans lequel Trump devrait appeler le Congrès à mettre fin à des décennies de blocage, à guérir les blessures anciennes et aussi à trouver des compromis. Appelle donc à l'unité alors que l'Amérique est divisée. Vous savez que maintenant le Sénat est républicain tandis que la Chambre des représentants est à majorité démocrate. Et puis on sort à peine de ce shutdown, de cette paralysie partielle des administrations qui a duré 35 jours sans que ça ait servi à grand chose puisque dès le 15 février, l'Amérique pourrait se retrouver de nouveau bloqué si la Maison-Blanche et les démocrates ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le projet de mur que Trump veut bâtir. L'immigration illégale et la sécurité à la frontière devraient d'ailleurs sans doute être une part importante du discours de ce soir.
Il y a aussi un bon moyen d'en savoir un peu plus sur la teneur de ce discours, c'est la liste des invités au Congrès.
Oui, c'est important parce que la composition du public invité au Capitole donne un peu la tonalité de la soirée. Ainsi, le président et la première dame ont convié, par exemple, la famille d'un couple du Nevada, deux personnes assassinées le mois dernier par un immigrant entré illégalement sur le sol américain, ou plus anecdotique, un jeune garçon du Delaware, âgé de 11 ans. Il s'appelle Joshua Trump. Il n'a rien à voir avec la famille du président, mais il est harcelé au collège à cause de son nom de famille. Et puis, les parlementaires aussi ont droit à un invité chacun. Et les démocrates, en guise de message au président, ont convié un militaire transgenre, plusieurs sans-papiers mexicains ou encore des fonctionnaires qui précisément ont été privés de salaire pendant le shutdown.
Alors on écoutera ce discours à 21h chez vous, 3h du matin, heure de Paris. Merci Grégory Phillips en direct de Washington. Le pape rentre au Vatican ce soir après sa visite aux Émirats Arabes Unis et la messe en plein air à Abu Dhabi devant 130 000 fidèles au moins. Il parle dans l'avion du retour d'un pas en avant dans le dialogue avec l'islam. Il reconnaît aussi que des prêtres et des évêques ont agressé sexuellement des sœurs. Theresa May était-elle à Belfast avant de revoir jeudi à Bruxelles Jean-Claude Juncker, Michel Barnier et Donald Tusk? Antoine Gignot, la question de la frontière irlandaise est le principal point de blocage de l'accord sur le Brexit qu'elle tente de sauver.
J'avais 12 ans quand les troubles ont commencé, lance la première ministre, et 41 ans lorsque les accords de paix de Belfast ont été signés. C'est un jalon dans ma vie d'adulte, explique Theresa May. La première ministre affirme qu'elle a rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'élus locaux. Elle cherche à rassurer.
Je comprends ce que retour d'une frontière physique signifierait en termes de commerce pour l'ensemble de l'île. Lorsque l'Union européenne a voulu mettre en place un dispositif avec une frontière maritime, j'ai refusé et je continuerai de le faire. Ça porterait atteinte à l'intégrité du marché intérieur britannique et ce serait une manière d'ignorer les inquiétudes de beaucoup de gens qui ont peur d'être coupés du reste du Royaume-Uni. Nous allons trouver une manière de sortir de l'Union qui soit conforme aux engagements vis-à-vis de l'Irlande du Nord.
Pourtant, aucune annonce, aucun indice sur les solutions qui peuvent être mises en place. Le porte-parole du 10 Downing Street laisse entendre que Theresa May fera des propositions concrètes jeudi à Bruxelles. Elle pourrait notamment évoquer la possibilité de contrôler les marchandises à distance grâce à un système d'enregistrement informatique. Mais ce soir, la seule idée qu'elle formule, c'est une candidature commune du Royaume-Uni et de la République d'Irlande pour l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
On termine avec un film qui devrait nous faire relativiser l'hiver que nous connaissons en France, Arctique, du Brésilien Joe Pena avec Mads Mikkelsen. Ça se passe en Arctique, comme le titre l'indique. L'histoire d'un homme seul dans des étendues de glace et de neige à perte de vue. Film très singulier pour Eva Bétan.
Alors que le genre permet le spectaculaire, c'est un film de survie minimaliste. Un homme seul dans un désert glacé, survivant d'un accident d'avion. Nous ne saurons rien de lui, il n'est défini que par ses actes. Pêcher, actionner une balise, en silence et pour cause, c'est un film quasiment muet. Et voilà qu'un hélicoptère s'écrase, il y a une rescapée. C'est vraiment un film audacieux. La survivante est inconsciente, dans un semi-coma, à demi-morte. Mais c'est un être humain et cela change tout. Mads Mikkelsen.
Cela part d'un grand sujet. Quelle différence y a-t-il entre survivre et vivre? C'est un beau sujet. Au début du film, il est un survivant, il n'a pas de futur. Quand une autre personne entre dans sa vie, il a un but. Désormais, il peut vivre ou mourir sans avoir peur.
Il y a bien de ci de là des péripéties qui relèvent du film d'aventure, mais nous ne perdons jamais de vue que ce n'est pas là l'important. Nous n'existons que par rapport à l'autre, voilà l'essentiel.
Arctique, c'est avec Mads Mikkelsen et c'est donc en salle demain.
Et c'est bien noté, merci beaucoup Sébastien Power, vous revenez demain, même heure, même endroit. Et nous on continue avec le téléphone sonne, l'œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et sinon, ça se radoucit demain, Elodie Calac.
Et oui, l'après-midi, 7 à 12 degrés au nord avec 10 degrés à Paris, 10 à 18 au sud, les 18 pour Perpignan. À l'ouest, le matin, pas moins de 5 à 10 degrés. En revanche, on partira de bas dans l'est avec des gelées. 0 degrés à Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, moins 2 à Reims et à Nevers, moins 3 pour Lyon, moins 4 pour Mulhouse et moins 5 degrés à Nancy.
Et sinon, ça restera encombré à l'ouest.
Oui, de la Bretagne vers la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, ce sera de la pluie, plus marquée d'ailleurs l'après-midi avec du vent jusqu'à 60 km à l'heure. Des pays de la Loire et des Charentes vers l'Orléanais, la région parisienne, les Ardennes. Là également un ciel couvert, parfois humide. On aura peut-être quelques gouttes de brune ici ou là. De la vallée de la Garonne en remontant vers le Limousin, l'ouest de la Bourgogne, la Champagne, le Luxembourg. Quelques éclaircies tenteront tout de même leur chance l'après-midi. Et puis plus à l'est, ce sera bien ensoleillé. Parfois un petit peu voilé tout de même sur le nord-est où il faudra composer avec des brouillards givrants le matin.
Allez, c'est noté. Elodie Calac, Météo France. Merci Elodie.